quoi ce mot ?
Schreckgestalt.
Schreckgestalt.
Nein, warte. Ein Gespenst geht um in Europa.
L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. La société se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées. La bourgeoisie et le prolétariat.
L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Cette fameuse phrase, c'est bien sûr celle qui ouvre le manifeste du Parti communiste, rédigé en janvier 1848 par Friedrich Engels et surtout par Karl Marx, qui avait alors 29 ans, puisqu'il est né le 5 mai 1818 à Trèves. Et c'est donc le bicentenaire de la naissance de Marx qu'on célèbre en ce moment. Et à cette occasion, Anthony Burlot, vous avez co-dirigé avec Jean-Numa Ducange un ouvrage collectif intitulé « Marx, une passion française » qui est publié par La Découverte et dont Le Monde d'Hippo publie « Les bonnes feuilles » ce mois-ci. Et vous avez travaillé, Anthony Burlot, sur les liens entre Karl Marx et la France. Lien qui commence assez tôt, puisque Karl Marx naît à Trèves, qui a été dans la Sarre française pendant près de 20 ans. Et lui, naît en 1818, alors que Trèves est redevenue allemande, et il grandit dans un milieu francophile, et il apprend le français assez tôt à l'école.
Oui, Marx, effectivement, naît dans une ville qui, quelques années encore avant sa naissance, était territoire français, et donc avait été... marqué par l'empreinte de la Révolution et du Code civil, donc d'une certaine modernité et par rapport à ce qui existait auparavant dans la Confédération germanique, une certaine forme de libéralisme et de progressisme. Et son père, qui était fils de rabbin, qui était donc d'origine juive, avait bénéficié des dispositions, disons, juridiques modernes et libérales importées par les Français. Et donc... il en est resté dans la famille Marx un rapport assez positif à la France, une certaine francophilie qui était assez marquée chez le père de Marx, qui était par exemple un grand lecteur de certains écrivains des Lumières. Et c'est un goût littéraire que Marx conservera toute sa vie, un goût pour des écrivains comme Voltaire ou comme Diderot.
Et assez vite, la France va être une source d'inspiration pour le jeune Marx qui va s'installer en France alors qu'il a 25 ans. En 1843, et à vous lire, il y a une espèce d'inspiration qui va lui permettre de s'émanciper de la philosophie allemande, qu'il va considérer peut-être trop métaphysique, alors qu'il va voir dans la France un foisonnement politique qui l'intéresse.
Oui, effectivement, il va s'installer à Paris à la fin de l'année 43, il va y rester jusqu'au début de 1845, date à laquelle il va être expulsé sur ordre du gouvernement de Guizot, à la demande du gouvernement prussien. Il y va... tout nourri de philosophie allemande, avec l'idée qui était une idée partagée par beaucoup d'intellectuels de sa génération et de la génération précédente, qu'il fallait réaliser l'alliance de la tradition politique française et du génie philosophique allemand, et que c'était en réussissant à rapprocher ces deux pays et ces deux composantes qu'on allait réussir une révolution plus grande que la révolution de 1789. Donc il s'installe à Paris avec cet objectif. Il a un journal qui s'appelle Les Annales franco-allemandes et qui est censé être le creuset de cette rencontre. Finalement, ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura qu'un seul numéro des Annales franco-allemandes et un numéro entièrement rédigé par les Allemands. Tous les Français qui ont été contactés pour l'occasion ont décliné la proposition. Néanmoins, ce long séjour de Marx à Paris va être extrêmement important pour lui et dans sa formation et dans la formation de sa pensée, parce que Paris... est une ville bouillonnante, très politique, avec des émigrés politiques du monde entier, allemands, polonais, etc.
Qui viennent trouver refuge dans la monarchie de Juillet, qui est assez libérale.
Relativement libérale par rapport au régime de l'Est du Rhin, disons. Et Marx va donc à la fois se former théoriquement, lire beaucoup la littérature socialiste française, des économistes qu'il va commencer à noter et à critiquer, des romanciers, des historiens, un certain nombre d'historiens libéraux à qui il va emprunter ou chez qui il va trouver l'idée de la lutte de classe. Et puis, à cette formation théorique, va s'ajouter une formation plus pratique, puisqu'il va entretenir des liens avec un certain nombre de figures de la gauche française de l'époque. Et puis surtout, il va fréquenter le mouvement ouvrier naissant, le mouvement ouvrier qui commence à s'organiser un peu dans ces années 1830-1840 à Paris.
Notre cher, notre grand Proudhon.
Le jeune Karl Marx, film de Raoul Peck.
La propriété empiète nécessairement sur la liberté, l'égalité, la sécurité des autres. C'est un droit naturel antisocial.
Vive ! À bas la propriété ! À bas le roi ! L'État ! Vive l'anarchie !
Proudhon, je te présente Marx, les annales franco-allemands.
Bonjour.
Marx.
Enchanté.
Grün me traduit les annales.
Ah bon ? Alors il doit le trahir.
Je crois, jeune homme, que vous aimez la bagarre ou en tout cas la dispute.
Dites la contradiction.
C'est vrai, vous êtes hegelien.
Je suis surtout matérialiste. Vous ne m'avez pas répondu sur la propriété.
J'en ai donné une définition, je crois.
Et le vol ? Vous le définissez comment ?
Faut-il vraiment le définir ? Comme chacun sait, c'est la violation du bien d'autrui.
Alors, la propriété, le bien, c'est donc pareil. Vous dites la propriété et le vol. Quand je vole la propriété de quelqu'un, je vole quoi alors ? Le vol ?
Vous faites semblant de ne pas comprendre, je suppose.
Karl ne fait jamais semblant. Ce qui veut dire, c'est que votre formule est une image. Une belle image, mais comme on dit chez vous, une image qui se mord la queue.
Il faut rappeler que Marx, c'est une figure importante du socialisme, mais il n'a pas inventé le socialisme. Il s'inscrit quand même dans une histoire du socialisme. Je ne sais même pas s'il faut dire socialisme ou communisme, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, quand on dit communisme, on pense à l'URSS, et quand on dit socialisme, on pense à la rue de Solferino. Mais à l'époque, au 19e, les deux mots sont assez synonymes.
Sont assez proches, effectivement, en tout cas à cette période-là. Marx, effectivement, n'est pas l'inventeur du socialisme. Il y a toute une riche tradition socialiste avant Marx et en dehors de Marx, notamment en France. Il n'est pas non plus le fondateur du communisme. Il y a des gens avant Marx qui considèrent qu'il faut prendre le parti du peuple. Il y a des gens avant Marx qui considèrent qu'il faut prendre le parti des ouvriers. Il y a des gens qui défendent l'idée de l'abolition de la propriété privée, de la socialisation des grands moyens de production, etc. Ça, ce sont des idées qui existent avant Marx et en dehors de Marx. Ce que Marx va apporter certainement, c'est qu'il va chercher à fonder ses revendications socialistes ou communistes sur autre chose qu'une aspiration humanitaire, disons.
Et il va la fonder sur une théorie économique.
Il va la fonder sur, disons, une théorie de l'histoire qui porte en son cœur l'idée de la lutte des classes et l'idée d'une succession de modes de production. Enfin, toute une théorie de l'histoire qu'il va élaborer au fil de sa vie. Et puis, sur une analyse critique très approfondie, très poussée, du capitalisme qui trouvera sa forme canonique dans son dernier grand livre, c'est-à-dire Le Capital.